Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Florina Jacob.
Bonjour Julien Vidal.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je commence toujours comme ça, je tiens d'abord à remercier le partenaire de ce podcast qui est la NEF. La NEF, c'est une coopérative bancaire qui est basée à Lyon, pas très loin d'où nous sommes là actuellement, qui aide depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et moi, c'est un partenariat du coup qui me donne beaucoup de confort pour pouvoir continuer à donner la parole à des personnes inspirantes comme toi aujourd'hui, Florina. Toi, tu es chargée de projets terrain et scientifiques pour Coral Guardian, qui est une association à but non lucratif qui œuvre depuis 2012 avec les communautés locales pour protéger les écosystèmes coralliens partout dans le monde. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à Lyon, nous allons parler de notre capacité à protéger les écosystèmes, mais aussi à les régénérer. Vous avez des choses intéressantes à dire par rapport à ça. Et plus largement, moi j'ai envie de te questionner sur notre manière, à nous, humanité, de remettre de l'humilité dans nos vies et à reprendre une place vraiment parmi le vivant. Ok, ça te va? La première question que je pose à tout le monde, Florina, c'est imagine, toi tu es dans un événement où il y a plein de gens que tu ne connais pas et tu commences à parler avec quelqu'un qui te pose cette question et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu lui réponds?
Alors moi, je travaille pour la protection des océans et des coraux. Et tout le monde pense que les coraux, ils habitent que dans les zones tropicales, mais en fait, il y a des écosystèmes coralliens partout dans le monde. C'est juste que dans les tropiques, ils sont plus accessibles. Et du coup, je suis le lien entre les structures locales et l'association en France. Moi, j'accompagne les porteurs du projet à développer les projets d'un point de vue technique et aussi de communication et tout le suivi du projet.
On comprend bien hein, le côté très technique, coordination de cette vision du temps long et à la fois, j'imagine, le lien avec les partenaires parfois financiers, les communautés locales. Tu es vraiment un peu la chef d'orchestre de tout ça. Et à la fois, je trouve que malheureusement, on donne trop les intitulés des postes en fonction des moyens et pas tant de la finalité. Est-ce que tu te décrirais, ou en tout cas, est-ce que ça t'irait si je te décrivais comme protectrice des coraux ou est-ce que tu aurais quelque chose à dire d'autre par rapport à ça?
Oui, moi, j'aime bien m'imaginer comme une facilitatrice de la protection des coraux. Parce que j'accompagne, vraiment c'est un soutien, mais l'idée c'est de former et d'accompagner au développement de la création de capacités locales. Du coup moi j'accompagne à créer cette capacité locale et avec les ressources humaines et disons propres à chaque projet, mais avec un peu de cadre et avec l'expérience de Coral Guardian.
Tu vois là, la conversation qu'on va avoir et qu'on commence à avoir, Florina, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast 2030 Glorieuse. Parce que souvent, j'entendais les gens qui me disaient, voilà, moi j'ai compris à quel point, écologiquement parlant, c'était très urgent d'agir, j'arrête de prendre l'avion, je mange plus de viande, je sais pas quoi. Tous les gestes un peu qu'on imagine quand on parle à l'échelle individuelle. Pourquoi pas même je fais des manifestations, je vais voter, ou pourquoi pas même de la désobéissance civile, etc. Mais souvent, les gens, la dernière facette qu'ils n'arrivaient pas à changer, ou parfois même à laquelle ils pensais même pas, c'était la casquette de professionnel, de comment aussi, à travers leur métier, ils peuvent avoir un impact, où trop souvent, on me disait, bah oui, mais moi, j'ai pas envie d'être agriculteur bio, tu vois, ou me lancer dans la permaculture, comme si participer à ce monde de demain, c'était forcément remettre les mains dans la terre. Et ce que j'adore, c'est donner la parole à toutes ces personnes qui font tous ces métiers, à tellement différents, tellement originaux, tellement uniques, et tu es la première personne qui fait ce métier à qui je parle. Je trouve que j'ai énormément de chance et j'aimerais que tu me racontes un peu plus ce que ça veut dire. Et avant même ça, comment on en vient à se dire, bah oui, forcément, je vais être facilitatrice de protection des coraux, c'est évident.
Bon, déjà, ça me passionne beaucoup l'idée de créer, d'accompagner à la création et la mise en place des projets et que ce ne soit pas un projet à titre personnel, mais que c'est vraiment un travail collectif. Et du coup, dans ce sens, quand j'ai rencontré la mission de Coral Guardian, ça m'a vraiment touchée. Comme quoi, on travaille main à main avec les communautés locales. Ce n'est pas des projets à nous, mais c'est des projets locaux. Et nous apportons notre expérience et nos savoir-faire et pour que ça se développe. Mais très pratiquement, et en vrai, la conservation, elle a tout un travail de bureau qui ne se voit jamais. Mais que pour qu'il y ait des gens qui font de la protection et de la restauration sur le terrain, il y a toute une partie de communication, de création de protocoles, d'analyse des données, etc., qui ne se voit pas, mais qui est fondamentale. Et c'est un peu là où je joue. Je suis un peu le pont entre l'équipe en France qui communique avec les partenaires financiers ou les partenaires de communication et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et j'accompagne aussi quand les porteurs du projet ont des questions techniques de comment je fais ça, comment je résous ça. Même si je ne sais pas la réponse, je travaille avec eux. Donc, mes connaissances, mes études et ma curiosité aussi à leur disposition pour résoudre les problématiques au fur et à mesure des projets.
Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des coraux partout dans le monde. C'est vrai qu'on les imagine tout à fait dans les pays exotiques. Moi, j'ai eu la chance de vivre aux Philippines, où là, forcément, la rencontre avec les coraux est évidente. Et souvent, l'émerveillement qu'on a par rapport aux océans, aux fonds marins, elle se fait au contact des coraux, qui sont quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais il y en a aussi dans d'autres pays, peut-être même en fait aussi exotique maintenant que j'y pense, comme la Colombie, qui est un pays dont toi tu viens. Si les gens peut-être l'ont noté, tu as un léger accent chantant puisque tu viens de Colombie. Est-ce que c'est là-bas que tu as créé ce lien avec les coraux et que tu as eu cette envie-là? Est-ce que c'est complètement différent?
Non, c'est exactement là. C'est dans les eaux colombiennes que j'ai trouvé ma passion pour la mer et pour la biodiversité marine. Et les coraux, ça, en fait, la première fois que je me rappelle d'avoir nagé dans des récifs coralliens, ce que j'aimais le plus, c'est que je ne comprenais rien de ce que je voyais. Je ne comprenais pas ce que c'était, si c'était des animaux, si c'était quoi, c'est vivant, c'est mort. Et du coup, j'étais en face à l'inconnu absolu. Et voilà, c'est le lien, c'est fait.
À tel point que du coup, tu as fait des études par rapport à ça. Il y a aujourd'hui des études qui permettent de se mettre au service du vivant, de son émerveillement, mais aussi du coup de sa protection, de sa préservation, de sa régénération.
Oui, en fait, mes études initiales étaient en écologie, plus généralement, pas forcément marine. Mais c'était, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le lien entre l'humain et la nature. Donc, pas que le côté biologique, mais où est-ce qu'ils sont les humains et comment ils interagissent. Pas forcément juste le recyclage et des choses, un peu des endroits communs de compenser l'écologie, mais comment est le système social et écologique dans un territoire. Et c'est après, mais bon, tout au long de mes études, j'ai toujours très clair que c'était la mer qui me passionnait. C'est après, dans mes études de master en France, que j'ai un peu affiné et définit le chemin marin.
Puisque tu es venu en France, tu as terminé tes études là et c'est aussi là, j'imagine, que tu as rencontré l'association Coral Guardian.
Oui, c'est ça. Et j'ai fait mes études à Nice, à l'Université Côte d'Azur. Et ils proposaient deux stages. Et parmi les associations, les structures qu'ils proposaient pour faire des stages, il y avait Coral Guardian, ils parlaient de la restauration, ils parlaient de communautés locales, de connaissances scientifiques. Et bon, c'était un coup de cœur, franchement. Et j'avais déjà travaillé un peu en restauration écologique des récifs coralliens en Colombie. Mais c'était un peu la deuxième version avec toute une autre approche, parce que je n'étais pas sur le terrain, mais c'était plus dans le travail de gestion de projet, analyse des données qui m'intéressait beaucoup. Et du coup, là, j'ai commencé mon lien avec Coral Guardian qui continue.
Oui, parce qu'on est en 2022, l'association elle existe depuis 10 ans. Je l'ai dit en introduction, son objectif, sa mission, c'est d'œuvrer avec les communautés locales pour protéger les écosystèmes coralliens partout dans le monde. Donc ça touche pas mal à ce que tu disais, réussir à faire quelque chose de collectif, de mettre en avant les savoir-faire et les ressources locales pour protéger ces écosystèmes qui sont éminemment complexes et sur lesquels en fait repose une multitude, un foisonnement du vivant.
Oui, c'est ça. En fait, ce qui m'a un peu attrapée de Coral Guardian, c'était déjà l'approche, c'est pas des projets à titre personnel, mais ils sont un peu à la recherche des projets et des porteurs de projets avides de développer leurs propres projets. Et ils donnent ces ressources techniques et financières pour que cela puisse se passer.
Oui. Oui, c'est pas l'occidental qui arrive avec ses gros sabots et son argent en disant on va faire ça là. Et en fait, ça pourrait pas marcher pour plein de raisons techniques, humaines, culturelles, géologiques. Bref, là, c'est vraiment, ça vient du terrain. Ça a d'autant plus de chances d'être, comme tu le disais, affiné, défini et donc vraiment ciblé, en fait, d'exister sur le temps long. Donc, on comprend bien cette logique. Est-ce que tu pourrais, en plus la forme qui a l'air d'être très pertinente, me raconter un peu plus le fond, à quoi ressemblent ces projets, me donner peut-être un exemple. Je sais que vous êtes en Indonésie, en Espagne, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un projet très concret sur lequel tu travailles, toi?
Alors, le projet pilote, et c'est celui qui est basé en Indonésie depuis 2015. Et c'est un projet dont la problématique de dégradation des récifs coralliens était la pêche à la dynamite, qui était développé par les communautés locales, qui détruisait tout l'habitat et la complexité du récif, et du coup qui mettait en péril aussi le soutien des populations locales en termes de pêche, de tourisme et de la culture. Donc nous avons rencontré une structure locale qui a voulu commencer ce projet à l'île d'Atamine. C'est une toute petite île pas loin du parc naturel de Komodo, et près de Labuan-Bajo, c'est une grande ville. Et du coup, là, nous avons petit à petit établi un lien, Coral Guardian a établi un lien avec la communauté locale et créé ce projet, qu'en ce moment, c'est une aire marine protégée et reconnue par le gouvernement de 1,2 hectare. Ce n'est pas énorme, mais c'est protégé 24/7, donc c'est assez constant, disons, la protection. Et c'est là où l'équipe locale, qui est une équipe de salariés de 8 personnes, qui déjà est pas mal, et sont en charge de la protection de la zone, de la restauration par bouturage des coraux et de la sensibilisation aux communautés locales.
Oui, parce qu'effectivement, en général, quand on parle des associations qui protègent les écosystèmes, c'est un peu l'image qu'on en a. Tu en as parlé, on crée une réserve locale, on fait des prélèvements, on voit l'évolution des populations de tel poisson, tel milieu, etc. etc. Mais on n'a pas une action qui est très invasive, très intrusive. Alors que vous, Coral Guardian, vous avez aussi, et c'est pour ça que vous avez été pas mal connu, il y avait un appel à financement qui avait été assez relayé en France, en tout cas moi je l'avais vu passer, qui disait non seulement on protège, mais en plus on régénère, on fait du bouturage de coraux. Tu peux raconter ça, comment ça fonctionne pour les personnes qui en ont jamais entendu parler, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors les coraux, ils ont deux façons de se reproduire. Une qui est asexuée, ce qui est celle du bouturage. Donc ça marche en prélevant des petits fragments des coraux, soit branchus, soit massifs, dans les différentes formes. Et à partir de ce petit bouture, il y aura une nouvelle colonie qui est un peu identique et génétiquement à la colonie mère. Et du coup, comme ça, on passe d'avoir une seule colonie de corail à plusieurs colonies et récupérer la couverture. Mais ça, c'est vraiment une des façons, une des méthodes pour la restauration qui est celui impliqué et utilisé en Indonésie. Mais ce n'est pas le seul, vraiment. C'est dans la restauration des coraux, c'est la méthode la plus épanouie. Mais vraiment, Chaque projet a ses méthodes en fonction des problématiques et en fonction de connaissances et capacités locales. Donc, il n'y a pas une formule magique en quoi, oui, si on veut régénérer, c'est ça qu'il faut faire. Il faut juste prendre des fragments et faire plusieurs colonies. Mais il faut vraiment faire toute une analyse scientifique derrière de c'est quoi qui dégrade l'écosystème, pourquoi et comment on peut contribuer à que ça s'arrête et que se régénère.
Oui, parce qu'effectivement, quand on entend régénération, on pourrait avoir cette vision presque très arithmétique en se disant « Ah ben, en fait, il y a eu moins, je ne sais pas combien de pourcentage de coraux dans le monde. On va lancer tout un tas de projets comme Coral Guardian. On va faire plus ou fois, je ne sais pas combien. On va arriver à réparer un peu tout ce qu'on a fait et basta. » Ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a tout un tas d'individus qui ont été perdus avec une complexité génétique qui a été perdue. Mais souvent, on dit « Mais oui, mais ce n'est pas grave parce qu'on coupe des arbres, mais on en replante d'autres. » Et en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup, la nature, le vivant est beaucoup trop complexe. Mais c'est quand même intéressant d'avoir cette idée. Et vous, en plus, au-delà du côté de reproduction, vous utilisez ces projets de régénération vraiment comme un moyen, pas du tout comme une fin. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi c'est aussi important que d'aller plus loin dans cette démarche?
Oui, bien sûr. Et en fait, la restauration, c'est un la restauration des récifs coralliens, c'est un moyen pour rapprocher les communautés locales à l'écosystème, créer un peu une excuse pour l'étudier, pour faire des outils de sensibilisation, pour aller les visiter plus souvent. C'est vraiment une excuse qui permet bien sûr de rétablir un écosystème, mais en même temps de créer une niche et une culture comme quoi c'est possible de avoir des activités économiques autour des écosystèmes de façon durable. Donc, c'est pas que la pêche et le tourisme qu'on peut développer comme activité économique, mais en ouvrant cette porte de la restauration et les métiers de restaurateur, de protecteur des récifs coralliens et prend sa place dans la société.
Oui, parce que sinon, si vous venez juste restaurer dans votre coin, vous n'allez pas interrompre cette boucle de destruction qui était en cours sur place, déjà. Et en plus, vous n'allez pas permettre aux personnes de la commune, du territoire, de profiter, tu dis, d'une excuse, un prétexte pour voilà, retomber amoureux du vivant tout autour de soi, et notamment de ces coraux qui sont tellement complexes, tu l'as dit. On ne sait pas ce qui est vivant, ce qui est mort, on ne sait pas qui appartient à qui, c'est fou. Et donc, c'est presque une condition sine qua non, j'ai l'impression, la découverte, la reconnaissance, l'émerveillement pour la protection du vivant.
Oui, oui, tout à fait, en fait. Et en face à cet écosystème tellement complexe, et s'arrêter et créer des protocoles pour comprendre comment ils grandissent, dans quelles conditions ils préfèrent ou pas de se développer, quand est-ce qu'ils sont stressés, etc. Les populations locales peuvent comprendre leur écosystème et comme ça comprendre pourquoi le protéger et pas juste rester dans le status quo de on fait les mêmes activités toujours, mais que ça vaut le coup de protéger cette biodiversité et de quelle façon aussi eux, ils en dépendent. Parce qu'il y a tous les poissons, les crustacés dont ils dépendent pour leurs moyens de vie. Donc, en étudiant et en ouvrant ce niche de restauration et d'études de récifs coralliens, ça rapproche les communautés à leurs écosystèmes.
Ouais, t'as raison, c'est une reconnaissance qui est fondamentale presque de notre interdépendance, hein. On a l'impression, nous, les êtres humains, d'être un peu au-dessus de la chaîne du vivant, supérieur, plus intelligent, doué, alors qu'en fait, on est exactement imbriqué là-dedans, on est dépendant de plein de choses autour de nous, et donc il faut le reconnaître. Est-ce que vous avez un exemple de ces réussites, d'émerveillement que vous avez recréé auprès, je ne sais pas, de la communauté, des pêcheurs ou des plus jeunes parce que vous travaillez avec des écoles ou enfin j'en sais rien.
Et pour varier un peu du projet, je vais parler un peu du projet en Espagne. Et c'est un projet qui se passe sur la mer Méditerranée, près de Malaga. Et du coup, ici, la pression principale, c'était la pollution liée aux activités côtières et de pêche, qui fait que les filets de pêche s'émêlent autour des coraux, les détachent, les fragments, et petit à petit, les étouffent et tout l'écosystème meurt. Et du coup, la première fois, on a lancé ce projet en 2020, et on a fait la première visite au terrain l'année dernière pour connaître un peu comment ça se passe. C'est à 30 mètres de profondeur, donc ce sont des conditions déjà très différente à celle de l'Indonésie. Il faut faire de la plongée, il faut être un peu, c'est beaucoup plus technique et plus exigeant d'un point de vue et de plongée aussi. Du coup, on est arrivé, on a déjà connu les coraux méditerranéens dont on connaissait très peu et c'était merveilleux de voir à quel point ils soutiennent toute la biodiversité. Et cette année, on a eu la chance de retourner, il n'y a pas trop longtemps, il y a 2 semaines peut-être, et c'était reconnaissable. Mais oui, vraiment, et tous les fonds, il n'y avait presque plus de filets de pêche, il y avait toute la couverture corallienne et avec des coraux chandeliers, dendrophilia, tout totalement repeuplé. Et il y avait mais vraiment un rideau de poissons.
Tout ça en quelques mois ?
Oui, en un an, en année.
Et les pêcheurs sur place, la communauté locale, elle disait quoi ?
C'est surtout les plongeurs les plus, disons les gens qui vont là-bas à faire de la plongée. Et depuis des années, parce que c'est une zone assez reconnue pour sa biodiversité, très dégradée, maintenant ce n'est plus le cas, ils disent qu'ils sont étonnés à quel point l'endroit, c'est plus le même depuis que le projet a commencé. Et c'est très reconnaissant de voir comment même les personnes qui ne savent même pas que le projet existe, parce qu'ils sont des plongeurs qui viennent par saison, ils arrivent et ils disent non, mais c'est vraiment tout un autre écosystème. Ouais. Il n'y a rien à voir à ce qu'on plongeait il y a 4 ans. Et du coup, c'est là que c'est un peu la piège ou l'occasion pour commencer à parler du projet, des efforts qu'on fait. Et ils sont tellement émerveillés. Ils disent oui, mais on voit les résultats même avant de savoir ce qui était mis en place.
Et donc, du coup, on a cet échange qui est hyper intéressant, vraiment passionnant, donc qui va susciter des centaines et des centaines de vocations. On a Coral Guardian, comme je disais, qui a fait un petit peu de bruit à un moment, mais on se rend compte, on imagine que ce travail, il pourrait être multiplié par 1 million, 10 millions, 100 millions, je ne sais même pas, en termes de moyens, en termes de personnes, en termes d'organisation, même si, encore une fois, il y a vraiment le besoin d'éduquer, d'accompagner les communautés locales. C'est quoi la suite des projets de Coral Guardian et comment vous œuvrez aussi peut-être à faire en sorte qu'il y ait ce développement qui ne soit pas d'une croissance linéaire, mais d'une croissance exponentielle?
Alors, en fait, chez Coral Guardian, nous avons un programme qui s'appelle le Blue Center, qui est dédié à l'auto-porteur ou porteuse du projet qui veut développer son propre projet. Et ils peuvent faire appel à notre accompagnement, soit à court...
Une sorte d'incubateur, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose comme ça. À court ou à long terme, et en fonction de leurs besoins et de nos moyens. Mais l'idée, c'est vraiment de développer un réseau de projets qu'on accompagne dans des différents endroits où il y a des acteurs motivés pour la protection et la restauration de ces écosystèmes. Et du coup, notre but, c'est vraiment d'élargir. Jusque-là, nous avons l'Indonésie et l'Espagne. Nous avons quelques projets qui se cuisinent et d'accompagnement à court terme. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir de plus en plus de projets qui font partie de ce réseau, qui aient des échanges. Et après, c'est pas... Chaque projet est unique, chaque méthode, chaque problématique, mais faire des échanges, ça peut être vachement enrichissant pour tous les porteurs du projet.
Et j'imagine qu'en plus d'être sur le terrain, il y a aussi un travail en termes de sensibilisation, de montrer déjà toutes les agressions qui sont faites au quotidien sur les coraux du monde entier. Il y a presque un travail, j'allais dire au début de journaliste, mais en fait même de lobbying aussi. Est-ce que vous intervenez à ce niveau-là ?
Nous avons des outils de sensibilisation déjà pour le public en général et pour les communautés locales afin de mieux connaître les écosystèmes coralliens, la distribution qui a vraiment des coraux partout dans le monde et qu'il y a aussi, et, disons pour les communautés locales, c'est où qu'ils sont les coraux exactement, pourquoi ils sont importants, etc. Et au niveau de, disons politique, c'est pas vraiment notre domaine. Et nous sommes plus dans les actions locales parce que, bien sûr, il y a des problématiques et des pressions qui se passent à niveau global, le changement climatique, bien évidemment, la pollution plastique, etc. Mais tant qu'il y ait une protection et tant que l'écosystème soit résilient et soit bien protégé localement, il peut mieux gérer quand il y a les pressions globales qui arrivent. Donc, notre travail, c'est vraiment avec les communautés locales et pour les problématiques locales. Donc, le reste, c'est vraiment, disons, c'est pas notre domaine.
Bon, à toutes les personnes qui nous écoutent, je vous partagerai hein, de toute façon tous les liens pour aller suivre le travail de Coral Guardian et on va continuer à explorer ces sujets. Moi, j'ai vraiment très très envie que tu me racontes, Florina, quand on sera en 2030 glorieuse et que la protection, la régénération des coraux, ça sera devenu quelque chose d'évident, un vrai chantier mondial dont on sera fier. En attendant, on marque toujours une petite pause, une respiration dans notre échange avec une lecture qui ouvre une fenêtre vers les utopies avec des valeurs fortes que toi, tu as envie de défendre, de voir même se développer dans ces fameuses 2030 glorieuses. Non, j'arrête pas de parler, moi, à force. Je mange 2030 glorieuses, je dors 2030 glorieuses. C'est mon monde parallèle. Qu'est-ce que tu nous as apporté, toi, Florina? Qu'est-ce que tu vas nous lire?
Je vais vous partager un passage du bouquin de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Et qui, je trouve, est très inspirante pour comprendre à quel point la mer elle est beaucoup plus de ce qui paraît et vraiment couvre tous les différents aspects de notre vie, même si on ne le sait pas. Cette mer, monsieur Aronnax, me dit-il, cette nourrice prodigieuse, inépuisable, elle ne me nourrit pas seulement, elle me vêtit encore. Ces étoffes qui vous couvrent sont tissues avec les byssus de certains coquillages. Elles sont teintes avec la pourpre des anciens et nuancées des couleurs violettes que j'extrais des aplysies de la Méditerranée. Les parfums que vous trouverez sous la toilette de votre cabine sont le produit de la distillation des plantes marines. Votre lit est fait de plus douces austères de l'océan. Votre plume sera de fanon de baleine. Votre encre, la liqueur sécrétée par la sèche ou l'encornée. Tout me vient maintenant de la mer. Tout lui retournera un jour. Vous aimez la mer, capitaine?
Oui, je l'aime. La mer est tout. Elle couvre le 7/10 du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. Elle n'est que mouvement et amour. C'est l'infini vivant, comme l'a dit un de vos poètes. Et en effet, monsieur le professeur, la nature s'y manifeste par ses trois règnes, minéral, végétal, animal. Ce dernier y est largement représenté par les quatre groupes de zoophytes, par trois classes des articulés, par cinq classes des mollusques, par trois classes de vertébrés, les mammifères, les reptiles et ces innombrables légions des poissons, ordre infini d'animaux qui compte plus de 13 000 espèces, dont 1/10 seulement appartient à l'eau douce. La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s'il ne finira par elle. Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer et transporter tous les horreurs terrestres. Mais à 30 pieds au-dessus de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur puissance disparaît. Ah, monsieur, vivez, vivez au sein de mer. Là seulement est l'indépendance. Là, je ne reconnais pas de maître.
Merci Florine, ça me donne envie de relire 20 000 lieues sous les mers. En 2022, t'imagines, on faisait du jet ski, on avait des yachts. On pensait que l'océan était aussi le lieu de l'infini hubris humain, de l'accumulation, de la domination, de la toute-puissance de l'humanité sur le reste du vivant, alors qu'on avait autour de nous et sous nous des trésors insondables, infinis, extraordinaires, des beautés dans des proportions, dans des couleurs, dans des formes dont on n'avait même pas encore idée à l'époque. Tout ça, c'est il y a bien longtemps. On est en 2030 glorieuse aujourd'hui, dans un monde où on a réussi. Réussi à quoi ? C'est à nous de le décider pendant les 20 prochaines minutes là, qu'on a devant nous, en peuplant ces minutes grâce à notre imagination, grâce à notre créativité et aux idées folles qu'on pourrait avoir là au gré de notre conversation, de nos échanges. Qu'est-ce qui a changé ? D'habitude, je pose la question, tu vois, aux personnes que j'interview, de regarder par la fenêtre et de me dire qu'est-ce qu'ils voient tout de suite. Moi, je te dirais plutôt, tu es là, ça y est, en train de te rendre sur un des terrains où tu travailles avec Coral Guardian et tu revois la mer. Qu'est-ce qu'elle te dit, la mer ? Qu'est-ce qui a changé en 2030 glorieuse ?
Bon, ça fait longtemps, 2022. Je ne me rappelle même plus comment c'était la dernière fois que je suis venue en 2022. Mais maintenant, il y a vraiment l'écosystème, il est tellement riche. Et maintenant, il y a le réseau de gens qui veulent être transplanteurs et restaurateurs des coraux. C'est énorme, c'est quelque chose qui est devenu plutôt normal. Les écosystèmes, ils sont bien protégés. Et ce n'est pas les capitales des pays qui disent comment le faire, mais c'est vraiment avec les communautés locales. C'est eux qui sont fiers de ces écosystèmes et qui exercent la protection de ces moyens de vie.
Ouais, c'est fou parce qu'il y a 10 ans en arrière, on nous parlait beaucoup de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique, qui a été un peu l'axe principal il y a 10 ans de cette mobilisation nécessaire. Et à la fois, on voyait ça comme une montagne très floue, très diffuse, énorme, et on ne savait pas trop par où commencer. Et nous, on se sentait souvent citoyens très petits. Alors qu'en fait, au cours des 10 dernières années, est revenue sur le devant de la scène la nécessité de préserver les écosystèmes, de régénérer le vivant, la faune, la flore, qui sont des territoires sur lesquels, des terrains sur lesquels on a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus rapidement, ou en tout cas, on se rend compte de nos impacts positifs beaucoup plus rapidement, et notamment parce que la mer, parce que l'océan, il est très généreux dans sa capacité de régénération. C'est fou, hein ?
Oui, en fait, à ce point-là, disons en 2022, je me rappelle, il y avait des alarmes comme quoi le changement climatique allait finir et l'existence des humains. Et heureusement que les gouvernements et tous les acteurs impliqués, et nous nous sommes sentis vraiment interpellés. Et il y a eu une transition, mais rapidissime, en 2 ans, vraiment les émissions de CO2, ils n'étaient plus là. Et du coup, c'était une question, maintenant il faut juste contribuer à la régénération des écosystèmes localement. Parce qu'au niveau global, c'était très rapide le changement vers la transition écologique. Maintenant, les pressions locales et régionales et sont vraiment au cœur des solutions parce que c'est là que les gens peuvent être vraiment impliqués et pas que les gens qui habitent sur les côtes. C'est vraiment toute l'humanité qui se rend compte que près ou de loin, les écosystèmes marins, ils contribuent à qu'ils puissent mener son style de vie.
Revenons justement sur ce qui a constitué l'un des grands déclics de cette sensibilisation. En 2021 déjà, on avait les Nations Unies qui ont décrété la décennie de la régénération écologique. Pourquoi ça a été un tournant ?
C'était une plateforme pour inciter et stimuler l'échange entre les différents acteurs de restauration et de mettre la restauration comme priorité des gouvernements, des acteurs privés aussi, des associations locales. Et ça a donné aussi la base pour que les communautés locales puissent avoir le courage et le soutien pour se lancer dans la protection, en étant protégés, en sachant que c'était viable aussi d'un point de vue économique et ce n'était pas juste un rêve de protéger les océans. Du coup, c'était vraiment le clic de tournage.
Presque au niveau philosophique aussi, hein, parce que quand on dit on décrète la décennie de la régénération, justement, ça nous permet de sortir de ce piège de la lutte contre le dérèglement climatique qui nous laisse en tant qu'agent économique qui prend, qui consomme et qui jette. Parce que à terme, en 2050, on doit atteindre la neutralité carbone, mais ça veut dire qu'on continue à émettre du CO2, on ne se rend pas compte de notre impact qui pourrait être positif. Alors que là, avec cette décennie de la régénération, on se rend compte que l'humanité, elle n'est pas seulement gaspilleuse, consommatrice, elle peut aussi avoir un impact positif, elle peut être régénératrice et donc on peut servir à quelque chose dans le sens où on laisserait la planète dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvée en fait. Ça change tout.
Oui, c'est ça. En fait, il était souvent pensé que les humains, c'était toujours négatif. C'était toujours une force de destruction. Mais avec les années, on a compris que les humains, ce même pouvoir pouvait aussi mettre à disposition de la régénération et de la récupération, protection des écosystèmes. Et c'est à ce moment-là où on a arrêté de faire partie de la masse qui ne sait pas quoi faire, à agir et à comprendre que nous avons notre place dans la protection de la biodiversité et du milieu qui nous entoure, qu'on fait partie des écosystèmes. Ce n'est pas qu'il y a les écosystèmes et les humains, mais que les humains, ils font partie de ce système planétaire, tout comme les animaux, les bactéries, les plantes. Mais nous sommes un des éléments en plus très puissants, certes, mais on peut contribuer et un peu suivre ces règles du monde naturel, du recyclage. Il faut juste observer autour de soi pour comprendre c'est quoi les règles du jeu dans la planète pour permettre aux humains de survivre.
Qu'est-ce qui, dans les fonctionnements dans l'océan, les règles de l'océan, nous a inspirés et qu'est-ce qu'on a copié de ces règles de l'océan pour nous faire du bien à nous-mêmes, entre les êtres humains et avec les autres espèces?
Bon, déjà, je pense que il y a différents niveaux. Et quand on regarde les écosystèmes, comme on disait au début, il y a tellement de diversité. Et ils existent tous dans le même écosystème. Donc déjà, l'idée que la diversité fait partie d'une de ces règles et que ça ne sert à rien d'essayer de homogénéiser et soit la société, soit les paysages.
C'est une richesse.
Ouais.
Plus de couleurs, plus de formes, plus de manières de fonctionner. Ça fait du bien à un écosystème. Ça lui donne un équilibre.
Ouais. Oui, c'est ça. Et qu'ils ont tous un rôle, même si on ne sait pas encore lequel. Et ils ont tous un rôle à jouer s'ils y croient.
Donc on a appris des océans que le monopole était un piège, hein?
C'est ça.
Que la domination d'un sur plusieurs, l'uniformisation, comme tu le disais, c'est un risque. C'est un risque aussi parce que ça allait nous permettre d'être moins adaptables. C'est la richesse qui nous permet d'être plus résilients, plus adaptables.
Oui.
Quoi d'autre?
La richesse et les échanges. Parce que ça sert à rien d'avoir des petites sphères qui ne se parlent pas entre elles. Ça ne sert à rien qu'il y ait des recherches scientifiques incroyables sur la potentialité des récifs coralliens et qu'il y ait des connaissances écologiques traditionnelles incroyables s'ils n'échangent pas, parce qu'ils restent juste un peu dans la boule. Et aussi, en observant les dynamiques de régénération de l'écosystème, c'est à quel point la résilience, on est plus résilient de ce qu'on pense. À quel point un récif corallien qui est protégé, effectivement protégé, et avec un peu d'essai, un peu d'effort de restauration, et d'un coup, il récupère toute la biodiversité. Du coup, c'est, disons, les systèmes naturels, ils peuvent se récupérer beaucoup plus vite de ce qu'on pense, et ce n'est pas vraiment à nous d'avoir tout le contrôle, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir tout le contrôle. On contribue juste pour que la succession écologique se facilite.
Ça veut dire qu'il y a besoin, dans ce que tu dis, l'exemple que tu donnes montre à quel point aussi régénérer, ça veut dire aussi un peu relâcher la pression de l'humanité. une pression qui pouvait être nocive et qui donc dégradait les écosystèmes, mais une pression qui pourrait être aussi née d'une volonté d'aider justement et qui en fait continuerait à laisser sous tutelle ces écosystèmes qui ont en fait besoin de place, qui ont besoin de respirer, qui ont besoin qu'on les ignore aussi un peu. Le vivant, il avait besoin qu'on le laisse respirer, qu'on lui laisse un peu de place.
Oui, qu'on leur laisse un peu de place et que si on... C'est, par exemple, je pense toujours quand on va visiter les récifs coralliens, si on a cette chance d'aller les visiter, on pense qu'en le touchant, c'est plus réel. Ou en prenant une petite étoile de mer et en la ramenant chez soi, c'est plus réel. Mais ce n'est pas du tout le cas. On peut vraiment se faire plaisir juste du fait que cela existe et que les prochaines 20 personnes qui vont venir vont voir la même étoile et vont aller chez soi et dire « Ah oui, c'était comme c'est beau le récif corallien ». Donc, l'admiration aussi fait partie des apprentissages, je pense.
Et puis en plus, de manière un peu plus pragmatique, au niveau des états, justement, dont on a assez peu parlé, on s'est rendu compte que préserver et régénérer, ce n'était pas du tout un coût, ce n'était pas du tout une ligne budgétaire en plus, mais c'était un vrai investissement. Parce que tous ces écosystèmes forts, florissants, établis et épanouis, ils aident aussi énormément à prévenir le dérèglement climatique et tout un tas de catastrophes qui seraient vraiment plus fortes si on n'avait pas joué ce rôle de régénération et de préservation de ces écosystèmes. Économiquement presque, même comptablement, c'est rentable en fait.
Mais oui, totalement. Et ce n'est pas que pour la capture de CO2, ce qui n'est pas vraiment le cas avec les coraux, mais c'est plus pour la mitigation de tous les phénomènes qui viennent avec le changement climatique, les tempêtes, les vagues plus fortes. Donc les coraux, ils constituent une protection côtière très importante pour toutes les populations qui habitent dans ces zones-là. Et l'accès à des ressources alimentaires qui sont vraiment pas loin de communautés les plus vulnérables, qui sont souvent dans des zones côtières. Et c'est aussi un coût qu'on ne doit pas faire en ce moment, parce que si les écosystèmes, maintenant...
Une économie, tu veux dire. C'est une économie qu'on ne doit pas faire.
Oui, c'est ça. C'est une économie qu'on ne se rend pas compte, parce que la nature, on ne voit pas la facture à la fin du mois. Mais cela contribue.
Ça montre aussi la générosité du vivant, non ? Tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça, sur cette générosité dont on doit s'inspirer ou...
Bon, pour moi, en fait, c'est pas forcément générosité, mais c'est juste la façon dont les écosystèmes marchent. Il y a un flux d'énergie dont on recycle quand on peut et on fait partie de ça. Donc l'écosystème, il est productif et il propose à ses êtres vivants ce qu'il produit. Et c'est à nous de le profiter, de permettre que cela puisse continuer ou pas.
Et là, en 2022, on était plutôt sur le « ou pas ». En 2030, ça a bien changé. Et ce que j'adore de cette conversation, c'est qu'on pourrait la dupliquer à l'identique pour les marais, les forêts, tellement d'écosystèmes qui, eux aussi, ont cette capacité, à partir du moment où on les regarde, on les aide un peu et on leur laisse beaucoup de place, à recréer ces flux dont tu parles, ces flux du vivant qui sont quand même d'une générosité, d'une capacité de créativité, d'un impact tellement, encore une fois, florissant, je repense moi, qui sont admirables et qui nous ont beaucoup soutenus et inspirés en 2030 Glorieuse. Je peux pas m'empêcher de te poser la question. Toi, Florina, tu fais quoi en 2030 Glorieuse, tu sais ?
Moi, j'ai eu la chance de connaître plein de gens dans ces dernières années, plein de projets, contribuer, connaître des initiatives, des gens avec envie. Et du coup, là, je continue à faire mon accompagnement à des structures locales et tout en créant des formateurs eux-mêmes. Donc ça devient vraiment un réseau énorme dont je fais partie, toujours.
Tu t'es pas dit, à force de travailler aussi dans ce milieu, que t'allais avoir besoin d'aide, notamment d'une aide juridique. Je pense au fait qu'il y a 10 ans en arrière, on parlait de plus en plus de données, de réaccorder en fait, de reconnaître même des droits à la nature pour mieux la protéger. Est-ce que c'est pas quelque chose sur lequel tu t'es impliqué? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu peux quand même me dire comment le fait d'avoir donné, reconnu des droits aux coraux, ça t'a aidé dans ta mission?
Vraiment, le retour le plus, un des retours les plus importants que j'ai eu de ces dernières années, c'est la satisfaction de contribuer au fait que les humains aient une place dans la planète sans que ce soit destructif et qu'il y ait les communautés locales qui ont des voix et qui sont un peu la voix de son milieu naturel. Donc, pour moi, c'est aux communautés locales de devenir la voix et les défenseurs, oui, les gardiens de son territoire et de ses écosystèmes, soit marins ou terrestres.
Si on revient en 2022, Florina, et qu'on se dit, bah oui, moi, forcément, les 2030 glorieuses comme ça, les 2030 glorieuses tellement luxuriant, tellement riche, tellement coloré, je les veux tout de suite, là, sans attendre. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui nous écoutent pour les faire advenir le plus vite possible, ces 2030 glorieuses?
Bon, déjà, je pense que la contribution de chacun, et il n'y a pas de formule magique. Donc, c'est vraiment en fonction de chaque contexte et les moyens de chacun qui peuvent contribuer. Mais je pense qu'un bon début, c'est de commencer par s'interroger sur ses habitudes de mobilisation, de consommation. Parce que même si on pense que ça contribue peu, on est plusieurs dans la planète. Donc, si nous tous nous faisions un peu ce que nous sentons qui est correct et ce qu'on connaît, et je pense qu'on peut avoir un bon impact sur la planète. Je pense aussi que il faut avoir le courage de se battre pour ces écosystèmes et pour protéger, pour créer des métiers qui n'existent pas encore dans des endroits où peut-être être restaurateur ou protecteur des coraux, ce n'est pas tout à fait viable. Avoir le courage de créer un système où cela soit viable. Et plus pratiquement, dans la vie quotidienne, oui, penser à qu'est-ce qu'on consomme, combien de kilomètres est-ce que ça a pris pour que ça arrive à mon assiette ou pour mes vêtements. Parce que tout ça, ça somme toutes les émissions de CO2, ça passe par nos habitudes de consommation et par notre mobilité.
On a beaucoup parlé d'émerveillement. Si tout le monde n'a pas la chance de venir d'un endroit où on a des coraux juste à côté, un récif corallien à explorer, comment on peut susciter cet émerveillement, l'entraîner, le créer? Qu'est-ce qui peut nous donner envie de tomber amoureux des coraux?
Bon, j'invite chaleureusement à lire sur les coraux, parce que c'est vraiment magnifique. Et sur la biodiversité, à quel point c'est riche et inattendu.
Tu as un livre à nous recommander, quelque chose? Parce que moi, j'allais parler d'un documentaire qui a un peu fait parler de lui, mais ce n'est pas vraiment sur les coraux, mais c'est sur la complexité marine. Et ça s'appelle My Octopus Teacher. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. En français, je crois que c'est La Sagesse du Poulpe. Je ne suis pas sûr. Mais est-ce que tu aurais d'autres ressources comme ça à nous partager?
Bon, déjà, si on veut comprendre et quelle est la... quel est vraiment le défi planétaire des coraux? Il y a bien sûr Chasing Coral, c'est un documentaire qui donne un peu un regard de la menace du blanchissement auquel les coraux font face et avec le changement climatique. Et ça montre à quel point ça peut changer l'écosystème. Ce n'est pas juste des histoires. Mais sinon, et chez Coral Guardian, nous cherchons d'avoir un message plutôt positif. Et du coup, dans notre newsletter, nous faisons des articles, un peu de divulgation, des articles scientifiques qui sont souvent compliqués, mais qui essayent un peu de décoder cette complexité pour rendre accessible la magie de la recherche scientifique sur les récifs coralliens.
Donc, on s'abonne à la newsletter de Coral.
Oui, mais vraiment, moi j'aurais beaucoup aimé la voir avant de travailler chez Coral Guardian.
Merci, Florina.
Merci à toi.
Et voilà, cet épisode avec Florina Jacob se termine et plus le temps passe et plus je me rends compte que je reviens encore et encore à des métiers qui sont en lien direct avec le vivant. C'est vrai que notre société actuelle nous a tellement éloignés de tous les écosystèmes, elle a vraiment rompu notre lien au vivant, à la flore, à la faune, toute cette biodiversité, ces richesses qui nous entourent. Et moi, plus je voyage en 2030 glorieuse, plus j'ai l'impression de le renouer, ce lien, de le recréer, et plus, en tout cas, consciemment ou même carrément inconsciemment, je me rapproche de ces métiers qui nous permettent d'avoir un impact à minima de protection, de préservation, mais en fait même positif sur le vivant, avec là en l'occurrence l'exemple de Florina de régénération du vivant, mais en fait c'était aussi le cas avec Baptiste Rény, créateur de forêt, c'était aussi le cas avec Lamia Semlali de Sea Shepherd, etc., etc. Bref, c'est vraiment des sujets qui me passionnent et j'espère que ça vous intéresse aussi, parce que je suis pas prêt de m'arrêter de creuser toutes ces potentialités professionnelles, toutes ces perches professionnelles qui sont à notre disposition pour qu'on arrive à mettre du sens dans nos métiers et qu'en plus on recrée, on retisse ce lien avec le vivant qu'on a malheureusement trop distendu. J'ai particulièrement aimé l'exercice qu'on a fait avec Florina de voir ce qu'on pouvait apprendre des océans et tous les exemples qu'elle nous a donnés de laisser de la place, de faire confiance à la résilience, à la capacité de régénération, de la richesse, de la différence pour être encore plus adaptable. Enfin, c'est vraiment des choses qui, moi, me parlent et qui sont en plus des sujets qu'on a déjà évoqués à travers les différents épisodes du podcast 2030 Glorieuse. Donc, tout se recoupe et ça me rassure aussi dans le fait qu'on va dans la bonne direction. En tout cas, comme d'habitude, moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cet épisode et je vous dis forcément à très vite pour un nouvel épisode des 2030 Glorieuses, et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Salut!
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !